petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Le permis de conduire donne droit à conduire une voiture, grande responsabilité sur la route. Je voudrais parallèlement parler du permis de conduire une entreprise par un ou des managers, grande responsabilité morale. C'est un permis de conduire en 12 points. Premier point, respecter la dignité sacrée de la personne humaine. La valeur d'un être humain, par exemple un salarié ou un client, n'est pas relative à son origine ethnique ni à son sexe, d'où l'énorme souci de l'égalité de l'homme et de la femme dans l'entreprise, n'est pas relative à sa classe, à ses performances, à ses goûts, à ses erreurs, à ses succès, à sa santé, à ses qualités et défauts. Non, la dignité humaine est absolue. Reconnaître quiconque comme quelqu'un qui compte, faute de lui reconnaître cette valeur spirituelle, cette valeur illimitée qui ne se matérialise pas, qui est indépendante de tout. Bien, faute de lui reconnaître cette valeur, l'être humain n'a qu'une valeur marchande. Deuxième point, du permis de conduire du manager, cultiver les scrupules, c'est-à-dire s'interroger et dialoguer, au risque d'être perturbé, au risque d'avoir mauvaise conscience, plutôt qu'être sûr de soi, en appliquant des recettes morales toutes faites pour se donner facilement bonne conscience. Ben, par exemple, que faire et que penser de la délation, c'est-à-dire de la dénonciation d'un collègue qui serait dans une faute, une corruption, que sais-je. Alors, il y a deux recettes contradictoires d'ailleurs. La recette un peu américaine, c'est-à-dire oui, il faut dénoncer le collègue qui est en faute, ou la culture française qui considère la dénonciation comme un vilain défaut, et ce dès l'école maternelle. Et puis alors il y a l'attitude authentique, une attitude interrogative, celle du scrupule, c'est-à-dire une attitude interrogative sans solution immédiate, douloureuse. Troisième point, envisager le long terme pour donner du sens et de l'avenir à l'entreprise, plutôt que de ne réagir qu'au coup par coup, à court terme, sans horizon. L'actuelle financiarisation de l'économie a supprimé le capitaine d'industrie qui se battait becs et ongles pour sauver l'entreprise en difficulté. Aujourd'hui, les investisseurs, à la moindre rumeur, vendent et fuient l'entreprise en cherchant mieux ailleurs, plus de profit, plus de sécurité, et ce, à court terme. Quatrième point, avoir le souci du lien social et citoyen, autant que du profit, en créant un climat de confiance avec tous ses partenaires de travail. L'entreprise se réduit en droit civil à une société de capitaux. Elle est en fait une communauté de femmes et d'hommes et un carrefour de compétences, communauté de salariés et de propriétaires, des actionnaires, mais aussi carrefour de compétences de toutes les autres parties prenantes de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les banques, les collectivités territoriales, les associations, les défenseurs de l'environnement, etc. La responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE, commence à prendre en compte de façon souvent informelle cette dimension globale. cinquième point, prendre conscience avec précaution que mes décisions n'engagent pas que moi-même, mais aussi toute une équipe, une entreprise, la société. Sinon, je suis comme ces traders qui ont défrayé la chronique en jouant en bourse avec des milliards qui n'étaient pas les leurs. Il n'y a pas que la course au profit. La loi Pacte du, c'est un sigle Pacte, hein, la loi Pacte du 22 mai 2019 modifie l'article 1833 du Code civil pour donner à l'entreprise une autre raison d'être en plus du profit. Cette autre raison d'être, c'est la prise en compte de l'humain et de la nature. J'aurais souhaité que cette loi parle de bien commun, on y était presque, il en avait été question. Sixième point, prendre en compte la globalité de chaque personne. Pas seulement un profil technique, mais aussi la famille, la vie privée, l'éducation, les modes de vie, les loisirs, la santé, etc. Sinon, l'être humain est instrumentalisé comme un robot. Tenir compte de l'être humain intégral, donc. Les directions de ressources humaines, en étudiant les compétences, et pas simplement les qualifications, les compétences et qualifications appartiennent à une sémantique officielle, les compétences étant plus subjectives, les qualifications plus, par exemple, sont des diplômes, aller dans le bon sens. Qu'en reste-t-il? Septième point, respecter les contrats, les engagements, les promesses, les règles fixées, sous peine d'anéantir toute confiance. Même le libéralisme, qui n'aime pas trop les règlements, a besoin de règles déontologiques. Compétition, oui, mais respect de l'adversaire et des règles du jeu, c'est ainsi que l'Angleterre de la reine Victoria a inventé le football et le rugby en même temps que le capitalisme moderne, dans le même siècle, le 19e. Et les universités britanniques trouvent dans le sport d'équipe l'école du capitalisme et de la démocratie, c'est-à-dire l'école de la confrontation, mais dans des limites. Huitième point, assumer les conséquences de ses responsabilités et de ses prises de risques. La responsabilité est un risque, celui de répondre de ses actes. Et le risque qu'implique toute décision de manager est une ouverture à l'aléatoire, une ouverture à ce qui n'est pas assuré, n'est pas maîtrisé, contrôlé, mesuré. Ce n'est pas qu'une souffrance, c'est aussi l'exaltation de ma liberté. Albert Camus disait, je cite, « La liberté est dans la marge d'insécurité que me fait prendre mes choix. » Fin de citation. Sinon, en effet, je ne serai qu'une mécanique programmée soumise à la nécessité d'actes qui s'enchaînent sans hésitation. Neuvième point, vivre le dialogue social dans le cadre des IRP, institutions représentatives du personnel. Les managers ont besoin d'interlocuteurs dans la continuité d'un dialogue entre personnes formées aux questions de l'entreprise, les syndicalistes. Sinon, c'est le populisme, avec révolte sporadique, sans recherche concertée de sortie de crise. Le conflit social n'est pas une tare, Pas plus d'ailleurs que le conflit avec des fournisseurs ou avec des clients. Le conflit fait avancer les choses à condition de ne pas sombrer dans la violence, qui est l'exercice excessif de la force. 10e point, être plus partenaire que mercenaire dans l'entreprise à vocation citoyenne. Pour le code civil et le code du commerce, l'entreprise, on l'a dit au point 4, n'est qu'une société de capitaux dont les associés sont les propriétaires. Mais pour le code du travail, les salariés font bien partie de l'entreprise avec des droits. Il y a là une anomalie, une irrationalité, une contradiction entre les codes de la loi, et surtout peut-être une injustice. La participation, non seulement aux bénéfices, mais aussi à l'information et à la gestion de l'entreprise, peut aider à créer un esprit de partenariat. 11e point, gérer au mieux le transit de la valeur ajoutée dans le processus matières premières d'abord, énergie, déchets, pour être solidaire du développement durable. L'entreprise mange et rejette comme un organisme vivant. Elle doit donc veiller à son empreinte écologique, même si cette idée est parfois floue, et informer les marchés d'une traçabilité écologique. 12e point, s'ouvrir à l'altérité, à la diversité humaine, à l'ailleurs, à l'autrement, à l'inattendu et au risque, à l'ouverture d'esprit, à la subsidiarité, à l'ouverture pluriculturelle. C'est un peu le point conclusif. L'éthique d'entreprendre est le contraire du comportement de prendre. Prendre, c'est l'économie où la richesse était seulement la terre et l'or, richesse qui ne diminuait et n'avait de croissance que par la violence, la guerre, la rapine. Entreprendre, c'est ensemble s'ouvrir à un projet, à un autrement, à une valeur ajoutée et à un ajout de valeur.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.